Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, pertinente ou un peu moins, les petites images qui bougent depuis la fin du 19e siècle. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons revisiter, car nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises, la carrière d'un des compositeurs américains de ce qu'on appelle l'âge d'or de la musique de film américaine, en l'espèce Miklos Rossa, qui, comme la majorité des compositeurs américains de l'âge d'or de la musique de film hollywoodienne, n'était pas du tout américain, né quelque part en Hongrie, si je me souviens bien, mais qui, entre les années 40 et les années 60, en gros, ce sera ça, le highlight de sa carrière, après il connaîtra quelques éclipses imméritées, et bien fut un des grands maîtres de cette musique de film hollywoodienne, aussi bien dans le genre policier, il accompagnait notamment quelques films de Jules Dassin et même d'Alfred Hitchcock, dans le péplum, à partir des années 60, quand le genre reviendra à la mode, avec notamment la monumentale partition d'un film qui n'était pas moins Le Ben-Hur de William Wyler avec Charlton Heston. Et puis, c'est cette veine que nous allons explorer ce jour, la veine romantique, les films de passion, les films d'amour, et Miklos Rossa, par son style flamboyant, comme vous allez pouvoir le découvrir ou le redécouvrir, eh bien, était le maître pour illustrer ce genre de tourment. On n'a pas de choix thématique particulier, juste quelques films dans lesquels l'amour et la passion amoureuse sont au highlight. Et on va commencer avec un film de Vincente Minnelli, tourné en 1949, adapté de Madame Bovary. Et oui, le roman de Gustave Flaubert. Alors on pouvait tout craindre de cette adaptation, mais il faut bien reconnaître qu'elle était plutôt habile, puisque Robert Hardray, le scénariste donc, de ce film, commençait par le procès dont fut victime Gustave Flaubert et son roman Madame Bovary, procès en obscénité qu'il finit par gagner. Et c'est donc Gustave Flaubert lui-même, qui est interprété, excusez du peu, par James Mason dans le film, qui raconte en fait son histoire de son point de vue. On le sait, Flaubert aura toujours dit « Madame Bovary, c'est moi ». Eh bien, c'était une occasion de l'expérimenter. Et il faut dire que l'interprétation était à la hauteur, puisque Madame Bovary, Emma, était interprétée par Jennifer Jones, que Charles Bovary, son mari, était interprété par le cauteleux Van Heflin, et que l'amant, l'inévitable amant, était interprété par Louis Jourdan, donc un acteur français, mais depuis longtemps acclimaté aux États-Unis. La musique, vous l'aurez compris, elle est de Miklos Rossa. On en écoute un extrait. Madame Bovary, 24 notes secondes.
Thank you.
le lyrisme tourmenté de Miklos Rossa pour la bande originale de Madame Bovary, d'après Flaubert bien sûr, un film de Vincente Minnelli tourné en 1949. Bon, le roman a déjà été adapté à de nombreuses reprises. Bah tiens, ça fait un sujet d'émission pour 24 notes secondes, ça, Madame Bovary à l'écran. Par contre, on va rester ce jour avec Miklos Rossa, bien sûr, et on va passer à un film tourné en 1958 par un des grands du mélodrame, un des grands du film de la passion amoureuse, en l'espèce Douglas Sirk, qui lui aussi était aussi américain que moi, je suis portugais, puisqu'il était d'origine danoise et qu'il avait commencé sa carrière cinématographique fort longue en Allemagne sous le nom de Detlef Sirk. Mais vous voyez, Detlef Sirk à Hollywood, ça ne le faisait pas. Et dans les années 50, eh bien, Douglas Sirk fut le maître du mélodrame. On peut citer Tout ce que le ciel permet en 1955, Ne dites jamais adieu en 1956 ou La ronde de l'aube en 1958. Rock Hudson fut son interprète favori, mais en l'espèce, dans le film que nous allons évoquer maintenant, Le temps d'aimer et le temps de mourir, eh bien c'est John Gavin qui tenait le rôle principal aux côtés de Liselotte Pulver, une histoire très tourmentée de deux amoureux quelque part dans l'Allemagne de 1944 en train de s'effondrer. Et évidemment, le couple s'effondrera lui-même. C'est un mélodrame, je le rappelle. Le tout était adapté d'un roman d'Eric Maria Remarque, plus connu sans doute pour être l'auteur d'À l'Ouest, rien de nouveau, là encore multi-adapté au cinéma, et qui d'ailleurs tenait dans le film un petit rôle, tout comme Klaus Kinski, qui en 1958 n'était pas encore l'interprète charismatique de Werner Herzog, mais était déjà méchant dans les films. Il aura toujours été méchant dans les films. On écoute un extrait de cette bande originale, quel beau titre, Le temps d'aimer et le temps de mourir, dans 24 notes secondes.
Thank you.
quelques accents militaires qui ne sont pas évoqués, sans évoquer, pardonnez-moi, la partition de Ben-Hur, qui valut notamment à Miklos Rossin un Oscar. Le temps d'aimer, le temps de mourir, Douglas Sirk, 1958, une histoire d'amour en temps de guerre, rien de tel pour faire un grand mélodrame, et en plus ça finit mal, donc c'est vraiment l'un des principes du mélodrame, mais rien de tel donc que Miklos Rossin pour pouvoir illustrer ces moments exacerbés. Il savait le faire sans emphase, avec beaucoup de lyrisme, mais sans que cela devienne jamais ridicule, en tout cas à mes oreilles et à l'oreille des contemporains du compositeur et des réalisateurs qui l'engageaient. Et on va maintenant écouter, toujours dans la même série, un extrait de la bande originale d'Histoire de Trois Amours, qui, comme son nom l'indique, est un film à sketch. Il y a trois sketchs, deux sont réalisés par Gottfried Reinhardt, qui n'a pas laissé une empreinte indélébile dans le cinéma hollywoodien, et le troisième par Vincente Minnelli, déjà cité. Le principe du film à sketch, c'est que ça permet de réunir une distribution prestigieuse de gens qui ne se rencontrent pas. Ainsi, dans le premier sketch, on retrouve James Mason, déjà cité, et Agnès Moorehead. Dans le second, la délicieuse Leslie Caron, Farley Granger, Ethel Barrymore et quelques autres. Et dans le troisième, rien moins que Kirk Douglas et Pierangeli, qui est une actrice italienne qui aura connu une carrière météorique. Vous l'avouerai-je, je ne l'ai pas vue. Donc je ne saurais vous en dire ce qu'il est. Par contre, j'ai déjà écouté la musique. Je vous en laisse profiter. Ça s'appelle Histoire de Trois Amours, Miklos Rossin dans 24 notes secondes.
Thank you.
Le lyrisme plus contenu, je trouve, d'Histoire de trois amours, The Story of Three Loves. Oui, je sais. Un film co-signé par Gottfried Reinhardt et Vincente Minnelli. Deux sketchs pour Gottfried Reinhardt, un pour Vincente Minnelli. Et évidemment, une distribution prestigieuse à l'avenant pour trois histoires d'amour que se remémore, c'est mieux. Les passagers d'un paquebot et rien de tel. Donc, la palette de Miklos Rossa pour ce type d'histoire. Même chose, mais là, j'ai un peu triché. Nous serons, je dirais, à la confluence entre le thriller et le film romantique. Il faut dire que Miklos Rossa, je l'ai évoqué tout à l'heure, avait notamment été le compositeur de La maison du docteur Edwards, l'un des films d'Hitchcock certainement les plus tourmentés de sa carrière américaine et tourné pendant la Seconde Guerre mondiale. Et La maison rouge de Delmer Daves, tourné en 1947, eh bien, c'était un peu ça. Il y avait une histoire d'amour, un peu gnangnan, il faut le dire, avec un acteur et une actrice qui ont disparu complètement des écrans après, en tout cas de ma connaissance, et puis Edward Gene Robinson qui jouait un rôle tourmenté, comme il en aura beaucoup joué au cours de sa carrière, avec un secret maléfique dans La Maison Rouge, évidemment, du titre, qui sera évidemment dévoilé à la fin, comme si j'avais une tête à vous le dire, ici, présentement, dans 24 notes secondes, Delmer Daves, donc qui fut un réalisateur assez conséquent du cinéma américain des années 50-60, et je me demandais, en préparant cette intervention, si on lui avait déjà consacré une émission de 24 notes secondes. Je vérifierai, et sinon, vous savez ce qui vous attend. On écoute un extrait de la bande originale de ce film, The Red House. Ah oui, même ça, j'y arrive pas. The Red House, la maison rouge, 24 notes secondes. On se doute que ce n'est pas de la musique de chambre, un extrait de la bande originale de La Maison Rouge, Miklos Rossa, un film de Delmer Dev sorti en 1947. Et là, vous avez avec ce grand final, on dit en français, une parfaite illustration d'une palette orchestrale vraiment très très puissante. Il fallait souvent, dans les années 50, c'était possible, des orchestres conséquents pour interpréter les musiques de Miklos Rossa. Et là, on aura exploré sa veine romantique et on va clore cette émission avec une sorte de cristallisation de la chose, mais 30 ans plus tard, en tout cas en 1977, en écoutant un extrait de la bande originale de Fedora, un film de Billy Wilder, qui fut lui aussi un des grands du cinéma hollywoodien et pour lequel Miklos Rossa avait composé plusieurs partitions, notamment celle de Du Poison, qui lui valut à mon souvenir un Oscar. Et Fedora, qui est adapté d'un roman de l'intéressant Thomas Tryon, qui fut à la fois acteur et romancier à succès. Eh bien, Fedora, c'est l'histoire d'une star interprétée par Marthe Keller, une star donc du cinéma américain et qui veut le rester et qui pour cela utilisera des moyens extrêmes que je ne vais certes pas vous divulguer ici. Mais c'était l'occasion pour Billy Wilder de se pencher plus de 40 ans après son premier film en tant que réalisateur, 1934, Mauvaise graine avec Daniel Darieux, c'est dire la constance de l'homme plus de 40 ans après de se pencher sur ce gouffre aux chimères, pour reprendre un titre de film fameux, ou cette miroir aux alouettes, ce serait plus approprié, qu'est le Hollywood de la grande époque, celui donc que Miklos Rossa et quelques autres ont illustré musicalement. Et pour l'accompagner, rien de tel que le compagnonnage de William Holden, qui fut l'interprète d'un de ses plus grands films, Le Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard, avec là encore une évocation assez acide d'Hollywood. Et bien Fedora révélait en 1977 un cinéaste qui était encore en pleine possession de ses moyens. C'est pourtant son dernier film, c'est bien dommage. De la même manière, il avait à ses côtés I.A.L. Diamond. Je sais, ça ne vous dit rien, mais I.A.L. Diamond, c'était un scénariste, et il n'est resté que scénariste de génie, c'est celui de Certain Lame Show. Vous vous souvenez peut-être, Nobody is Perfect, eh bien c'est lui, c'est I.A.L. Diamond. Il y a des gens, on devrait marquer ça sur leur pierre tombale. La musique de ce film est signée, vous l'avez compris, de Miklos Rossa. Ce sera une de ses dernières partitions d'ailleurs. On l'écoute, Fedora, 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.